Hé, hey, tonton!
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein?
C'est nous le futur!
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Et ce soir, un bonheur, un honneur, l'humoriste Laurie Perret. Comment ça va, Laurie ?
Ça va super.
Bienvenue dans Verveine Underground.
Merci de m'inviter, Mouloud.
Je suis content de te recevoir. Je t'ai déjà vu faire des passages dans l'émission qu'on faisait sur Canal,
ouais.
Click. J'ai eu la chance de te voir pendant le Summer Tour.
Ouais.
Et là, c'est la première fois que je vais avoir la chance de parler avec toi. T'es venu avec une playlist qui, je dois le dire, est assez exceptionnelle.
Merci.
T'es actuellement en tournée avec ton spectacle alimentaire en attendant la pension. Tu seras le 13 mai à Melun, le 20 à Biarritz et le 19 juin à la Cigale de Paris. Single Cigale, alors déjà parlons du titre. Spectacle alimentaire en attendant la pension.
Est-ce que j'ai vraiment besoin
oui,
de t'expliquer?
Oui, il faut expliquer. Tu sais, il y a Vald qui a une chanson qui s'appelle Pension Man, tu connais?
Ouais, non.
Tu connais pas?
Non.
Je te ferai écouter Pension Man de Vald.
Ok.
Toi, ton spectacle parle de ça?
Ouais, c'est un spectacle sur la maternité. J'endosse un personnage, c'est pas vraiment moi. C'est une nana un peu fragile que tu sens au bord du burn-out. Tu sens qu'elle peut partir, elle peut sauter à tout moment. Mmh. Et elle a écrit des chansons sur le piano de sa fille, elle vient les présenter... Et elle n'a pas une formation professionnelle, quoi. Donc elle ne sait pas trop ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Mmh. Et elle veut toujours expliquer pourquoi elle écrit les chansons, ce qui donne lieu à des sketchs, parce que ça ne fait pas que chanter. Et donc voilà, tu sens qu'elle a fait ça un peu avec les moyens du bord. Ça, c'est un peu...
Et c'est intéressant d'utiliser le stand-up pour faire un personnage.
Ouais. Ouais, écoute, en fait, ce qui est chouette avec ce perso, c'est que ça me permet vraiment de pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire sans qu'on m'en tienne rigueur. Mmh. C'est sur elle que ça retombe. Et je l'aime bien ce perso, tu vois, il est un peu fragile, un peu nunuche, et en même temps, elle dit tout haut un peu ce que tout le monde a envie de...
Ça parle notamment des passions, j'aimerais qu'on écoute un extrait de Laurie Perret sur scène.
Et puis, et voilà, on a fini par se lasser de nos passions, on a fini par se faire chier, quoi. Putain, avec Patrick, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, putain. Moi, je vois des fois, on était capable de ne pas se parler pendant des 4 jours. Bon, déjà parce qu'il n'était pas là. Et moi, quand j'ai eu trop marre de me faire chier, j'ai pris une petite chienne. C'est ce qu'il a fait aussi. Elle a fini écrasée. Oh, il m'en a vachement voulu parce que c'était une collègue de boulot. Et c'est juste après qu'il m'a quittée pour une autre collègue de boulot. Le boulot, c'est là où nous aussi, on s'était rencontrés, on bossait ensemble. Faut jamais faire ça. Bosser. Ah non, là, moi je vois, on est facilité avec le télétravail et tout.
Je suis Patrick.
C'est vrai.
C'est qui ce Patrick ?
Écoute, c'est qui ce Patrick ?
Laurie Perret, c'est qui ce Patrick ?
Ce Patrick, c'est un peu la caricature du fumier, parce qu'évidemment qu'on a toujours envie de taper sur nos ex. Donc c'est un peu la caricature du fumier. C'est pas du tout mon ex, en tout cas, mon vrai ex et ma véritable histoire.
Est-ce que ton vrai ex, t'allais le voir en disant « Écoute, moi je suis Laurie Perret, toi tu es mon vrai ex, Patrick c'est pas toi, sur scène c'est un personnage ».
Écoute, non, parce que comme tu t'en doutes, il a partagé ma vie un bon moment.
Donc il le sait.
Ouais, donc il sait, il connaît ma connerie. Il était là à ma première, il était là plein de fois. Et lui, il n'a aucun problème avec ça.
Et est-ce qu'il y a des gens qui lui disent au contraire qu'est-ce qu'elle t'allume, machin, tout ça?
Je pense que oui, mais je crois qu'il est assez fier de ça, parce que vraiment, pour mon entourage, il n'y a vraiment aucune ambiguïté, quoi, si tu veux. Et même à la fin du spectacle, parce que donc je fais tout le spectacle, et quand je clôt le spectacle en rappel, je dis « Est-ce que vous avez des questions ?» Et donc on s'explique, évidemment, sur le fait que tout est faux, faussement vrai.
C'est quoi la question la plus chelou que tu as eue ?
La question la plus chelou que j'ai eue ?
Ou vraiment quelqu'un a compris tout ce qu'il ne fallait pas comprendre ?
Ah ouais.
Ça arrive toujours, hein.
Le truc le plus chelou que j'ai eu, c'est au tout début, quand la notoriété a commencé à arriver, tu vois, qu'on commençait à me reconnaître. Donc, ça est venu avec la chanson 1, 2, 3, qui est une chanson qui raconte le nombre de doigts qu'a mis mon gynécologue pour savoir à combien j'en étais. Mmh. Et donc, c'est une chanson qui parle de mon accouchement. Et je croise un mec, j'avais fait un spectacle dans une station de ski, et je croise un mec dans l'ascenseur qui me dit « ça va mieux ?»
Ah ouais, pas mal.
Il était extrêmement premier degré.
Et tu pensais que c'était une maladie aussi.
Et il pensait que voilà, que j'allais, voilà, que je m'a demandé comment ça s'était cicatrisé, tout ça. Donc c'était un ascenseur, c'était très très long, ces trois étages.
T'as fait de la musique aussi, il n'y a pas que ce morceau. Il y a Ouvre les yeux, j'aimerais qu'on écoute un extrait.
J'ouvre les yeux déjà, le soleil se couche. C'est la vie, dire peu je vais, où le vent me pousse. Ouvre tes yeux, là tu verras mieux.
Ah ouais, Mouloud, tu sors le dossier.
Mais déjà, tu chantes, tu sais bien chanter.
Ouais, voilà, après...
On ressent l'influence de Karine.
Évidemment, Karine, elle était incroyable.
Vous pouvez écouter le podcast avec Karine, qui était incroyable avec, avec son album Fini... non, pas le temps pour les foutaises. Voilà.
Karine, tout ce temps que je courais ça pour l'honneur.
Voilà.
Ah, j'adore Karine, bien sûr.
Raconte-moi cette époque de chansons, de R&B.
Écoute, oui, voilà, Mouloud, j'ai fait de... je faisais du R&B et j'ai même fait à l'ancienne, j'avais fait un feat avec, avec la Fouine, mm-hmm. parce qu'évidemment,
moi, Fouini Baby, je viens des Yvelines,
je viens d'Elancourt, à côté de Trappes. Et ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu le cul entre deux chaises parce que j'adore faire rire, je viens de l'impro, mm-hmm. Et je voulais chanter également, voilà. Donc je faisais du R&B. J'y allais, tous mes potes ils me taillaient, mais ils venaient avec moi à chaque presta.
Comment est-ce que tu as commencé? Parce que Elancourt, c'est dans le 78.
Ouais.
D'Elancourt, il y a deux artistes qui sont sortis. Il y a toi, Ekwe, La Rumeur.
Ouais.
Toi, comment est-ce que tu as commencé? C'était par le R&B ou par directement l'impro?
C'était les deux en même temps. En fait, ça a commencé avec Issa Doumbia, qui était mon pote, et qui m'a dit viens, putain, t'étais hyper drôle, viens faire de l'impro avec nous à Trappes, il n'y a pas de meuf. Quand je suis arrivée, j'ai compris très rapidement pourquoi il n'y avait pas de meuf.
Pourquoi?
Bah parce que c'était des gros sauvages et que c'est pour ça que c'est devenu mes potes. C'est des mecs que j'ai rencontrés, j'avais 15 ans, j'en ai 38 et c'est toujours mes potes. Ils sont venus à toutes mes dates. Enfin, tu vois, au Casino de Paris, ils sont tous montés à mon salut, c'était hyper drôle. Et j'ai commencé avec l'impro et parallèlement. Enfin, c'était vraiment les deux en même temps, quoi.
Il y avait aussi Alban Ivanov.
Il y avait aussi Alban Ivanov qui était dans une équipe concurrente, qui était, je crois, qui était à Fontenay. Et en fait, si tu veux, c'était un championnat qu'on faisait de manière récurrente. Donc, on se connaissait les équipes les uns entre les autres. Et ouais, Alban, c'était notre pote.
Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand on voit qu'Alban est une des plus grosses têtes d'affiche du cinéma français? Toutes les semaines, il y a un film avec Alban qui sort.
Ouais.
Le public adore Alban.
Ouais.
On envoie beaucoup, beaucoup d'amour à Alban s'il nous écoute.
Ouais, on l'embrasse très fort.
Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez dans le rétroviseur, quand vous voyez? Est-ce que ça vous arrive ou vous n'avez pas le temps, vous foncez?
Bah, je pense qu'on le fait chacun de notre petit côté, tu vois, on n'a pas peu le temps de se rassembler, donc des fois c'est des grosses surprises, comme cet été au Summer Tour, on se retrouve avec Alban dans un resto, il y a tout le monde, et on se dit, ouais putain, on se connaît depuis 20 ans.
C'est fou,
chacun a mené son petit bonhomme de chemin, et en même temps j'ai l'impression que tout le monde est là où il devait être, en fait, tu vois. J'ai des potes qui étaient tout aussi talentueux que des Alban, que des Issa, qui n'ont pas percé parce que ce n'était pas leur volonté première et qui sont très heureux pour nous. Enfin voilà, tu vois, je crois que...
Et on embrasse également Issa.
On embrasse Issa Doumbia très fort. Ouais.
Alors, on va écouter des morceaux de la playlist de Laurie Perret. Ça commence fort, Nino, Viviès, et on en parle juste après.
Je l'adore.
Vous écoutez Verveine Underground.
Tout en Viviès, car certifié, en Bentley vers Porte d'Italie. C'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Ce qui ramène le pédo, c'est mes amis. Ah, chérie, 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 j'ai mon Glock, j'ai du Versace. Promis tant de délits, grâce aux baveux, on sera gracié. Pour le verser, on finira par vendre la patata. Fin de cul de sa mère, j'étais 500 E, je fais de la plata.
On vient d'écouter Viviès de Nino, Laurie Perret a choisi ce morceau. Est-ce que tu es une Kaira certifiée, comme dans le refrain?
Ouais, bien sûr. Clairement, j'essaie que ça se voit pas trop.
C'est ça, mais en vrai.
Dans ma zone pavillonnaire. Mais en vrai, ouais, clairement.
Qu'est-ce qu'il y a de Kaira en toi?
Je crois que je fais même pas trop exprès, tu vois. Je crois que, enfin, ce qu'il y a de Kaira, je crois que c'est je saurais pas comment te le définir, mais il y a un truc très impulsif, tu vois. Et je crois aussi qu'il y a un truc de principe. Je crois que ce qui fait qu'on se reconnaît avec nos potes, c'est que c'est les principes et les valeurs. Faut pas que ça bouge, quoi.
Ce que les gens oublient, que c'est surtout des principes et des valeurs qui sont associés à ce terme. C'est pas un truc forcément péjoratif.
Ah non, ouais, pas du
tout.
Dans
nos bouches à nous, en tout cas.
Bien sûr. Et puis moi, si tu veux, j'ai traîné avec ce qu'on appelle des mecs de la street, mais qui étaient absolument pas des bandits. Qui étaient, eux, si tu veux, leur skill, leur compétence, c'était des gros vanneurs. Nous c'était des armes de poing, les vannes.
Ouais.
Tu pouvais te faire terminer par des vannes et c'était implacable, quoi. Tu rentres chez toi, ça, tu t'es fait brûler, frère.
Et comment est-ce que toi, t'arrives à encaisser ça?
Parce que je suis une bonne vanneuse.
Ouais. Mais ça vient d'où? La famille?
Ça vient de la famille, bien sûr. Je pense que j'ai une mère qui est comme ça, qui lâche des punchlines incroyables. Qui fait pas trop dans la dentelle. Ouais. Chez moi, il fallait avoir le sens de l'humour.
Elle
te
vannait quand t'étais petite?
Mais clairement.
Elle te disait
clairement,
quoi?
Clairement, frérot. Mais parce que moi, je suis née dans une famille où ils sont tous un peu blonds aux yeux verts. Moi, tu vois, j'étais brune aux yeux marrons. Donc, j'ai grandi avec yeux marrons, yeux de cochon. J'étais poilue. On m'a trouvée dans une poubelle. Enfin, voilà, tu sais, les vannes des grands frères et tout, tu vois.
Donc, faut les encaisser.
Faut les encaisser. Faut pas pleurer parce qu'on n'est pas là pour pleurer. Personne va te consoler. Donc, il faut se défendre.
J'ai regardé un documentaire sur Janet Jackson. Je conseille, super documentaire, c'est sur MyCanal. T'as Janet Jackson qui se remet pas du fait que Michael Jackson la traitait de nez de cochon, de grosse.
Ah merde.
Et en fait, on voit que les vannes d'un grand frère peuvent être hyper...
Ça peut être destructeur et formateur, si tu veux, tu vois. Et je pense que... Je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit aussi, tu vois, je crois que quand j'étais petite, je me trouvais pas jolie. J'ai pas été éduquée pour être... Enfin, moi, j'avais un grand frère. Donc, pour sortir, il fallait que je colle mon grand frère. Donc, je jouais au foot. J'étais un petit garçon manqué, tu vois. J'étais pas du tout dans les trucs de nana.
Tu te battais?
J'ai appris, oui, bien sûr, contre mon frère.
Et tu t'es battue avec d'autres gens que ton frère?
Bien sûr, je me suis battue. La plus grande leçon de vie que j'ai eue, et j'essaie d'inculquer ça à ma fille, c'est en CE2, j'ai mis une patate à Loïc Laplanche.
Loïc, si tu nous écoutes.
Et j'avais pas le droit d'aller jouer. En fait, les jeux de filles m'intéressaient pas trop, et les mecs me rejetaient. Et le jour où j'ai mis une patate à Loïc Laplanche, j'ai eu le droit de jouer au foot avec les garçons. Ça a changé ma vie. C'était une vraie leçon de vie. Je me suis dit, ok.
Et qu'est-ce qui devient Loïc Laplanche?
Je sais pas, je l'embrasse très fort. J'espère que ses dents de devant ont bien repoussé.
Ouais. Et qu'il est vivant aussi, peut-être, on sait jamais.
Ouais, j'espère, bien sûr, ouais. On sait jamais.
On va écouter un autre extrait de la playlist de Laurie Perret, c'est Idir avec Ava Vainouva.
علاش الزين ديت مغرفاس نصغر تقديمين سليت ذفي رموز الطاس عليتي جبادين علاش الزين ديت مغرفاس نصغر تقديمين يا لا لا يا لا 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 علاش الزين ديت مغرف يا لا لا يا لا لا لا
On vient d'écouter Idir Ava Vainouva, un des plus beaux morceaux de l'histoire.
Ouais.
Pourquoi ce morceau, Laurie?
C'est fou parce que c'est même pas un morceau qui a tant bercé ma jeunesse. Tu vois, j'écoutais beaucoup de chansons orientales, mais il a un truc de... C'est une berceuse. Il a un truc très consolant, très mélancolique. J'aime infiniment ce morceau. Ouais,
tu l'écoutes pour te mettre dans quel état?
Et je l'écoute pour me projeter, tu vois. Alors que c'est fou, il te renvoie de la nostalgie.
Ouais.
Il te renvoie une nostalgie, mais pour mieux avancer, j'ai l'impression, tu vois.
Quand t'écris des blagues, quand t'écris des vannes, est-ce que t'écris en musique ou pas?
Non. Alors, c'est vrai que je fais des musiques, bien sûr. J'écris mes musiques, j'écris mes mélodies. Je crois que quand j'écris des blagues, pardon, ma motivation première, c'est de penser à mes potes et de me dire qu'est-ce qui les ferait marrer.
Et comment tu les testes, les blagues?
Eh ben, je les appelle et je leur fais.
Direct?
Ouais, bien sûr.
Et qu'est-ce qui déclenche chez toi l'envie d'écrire? Est-ce que c'est de manière très studieuse? Il y a plein de scènes de peur qui font ça.
Ouais, pas du tout.
Ils se retrouvent en se disant, bah, faut qu'on écrive de 14 à 16 heures.
Je sais pas faire ça.
Voilà. Est-ce que toi, faut que ça vienne de manière spontanée?
Je sais pas faire ça. Moi, en fait, ça vient toujours quasiment au même moment. C'est pour ça que je suis crevée. C'est que ça arrive au moment où je vais me coucher. parce que moi je suis mère de famille. Enfin, voilà, j'élève ma fille seule. J'ai plutôt pas mal de choses qui arrivent dans ma journée où j'ai pas trop le temps de me projeter. Tu vois, c'est des trucs très factuels. Faut que je fasse les courses, faut que je paye ci, faut que je fasse ça, faut que j'aille chercher la petite. Et ça s'arrête jamais. Et quand ça s'arrête, c'est là que tout arrive, tu vois. Et donc, même si je peux, quand ma fille va se coucher, je vais me poser sur mon canapé, je vais essayer de faire des accords, je vais essayer de trouver des trucs. Je vais trouver des trucs. Mais c'est au moment où je vais me coucher, où tout va s'arrêter, que j'ai des sortes de fulgurances et ça crée des insomnies productives. Et en une nuit, je peux t'écrire une chanson en une heure, si tu veux.
Et le rapport à la sincérité, Laurie, c'est que quand on voit du stand-up, il y a toujours une grande part de sincérité. Et c'est même ce qui définit l'art du stand-up. Est-ce que toi, il t'a fallu du temps pour apprivoiser ça?
Et bien justement, si tu veux, je suis exactement là-dedans. Parce que le premier spectacle, vu que c'est un personnage, je me suis permis évidemment de partir dans l'imaginaire, de m'inspirer de moi-même. Et ce qui était chouette, c'est que c'était jamais moi. Là, j'arrive sur le deuxième spectacle, où j'ai envie évidemment de plus me livrer, parce que finalement, j'ai rien raconté de moi. Donc ça va être maintenant. Et je pense que ce que tu dis, tu vois, est très intéressant sur la... Il y a un truc dans le stand-up, ça marche quand c'est sincère et quand c'est authentique. Il y a un truc où tu peux pas mentir. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de fulgurances en impro, tu vois. Parce que le public comprend que c'est un moment qui est magique, qui est maintenant, qui est pas inventé, tu vois. Donc ouais, c'est une grande question entre qu'est-ce que tu peux offrir aux gens et qu'est-ce que tu gardes pour toi, tu vois. Où est-ce qu'elle est la frontière de la pudeur?
Et c'est la part, je trouve, dramatique du stand-up. C'est que les plus grands stand-upers, les plus talentueux, c'est ceux qui vivent les trucs les plus durs, les plus tristes. On prend, je vais pas donner des noms, mais on prend chez les Français qu'on admire, quand on creuse un peu, c'est très 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 deep, très profond.
Ouais.
Est-ce que cette part de dramaturgie là et cette part de douleur, il faut être capable de l'apprivoiser? Est-ce qu'il faut être capable de la montrer?
C'est une excellente question qui me fout dans la merde.
Non mais
non, c'est vrai, Mouloud, c'est vrai. Moi, tu vois, par exemple, je pense que là, je suis à point pour raconter des choses que j'étais pas prête à raconter. Tu vois, par exemple, moi, je connais pas mes origines parce que je ne suis pas née dans ma famille biologique. Et c'est quelque chose qui est difficile à aborder parce que ça ne concerne pas que moi. Tu vois, et je veux pas au travers de en fait, je veux pas faire étalage de choses, je veux conserver une forme de pudeur, mais en même temps, c'est tellement atypique que moi, ça a généré chez moi un esprit de revanche par le biais de la répartie, par le biais de l'humour. J'ai mille vannes à faire là-dessus, mais évidemment que ma volonté première est de heurter personne. Tu vois, par exemple, mon premier spectacle est sur la maternité, je parle beaucoup de mon enfant, et en même temps, j'ai beaucoup expliqué à mon enfant qu'il ne s'agissait pas d'elle, mais d'une projection d'un enfant. Enfin, elle est là, c'est très difficile de rester authentique et de te dire, est-ce que ça, je peux le livrer? Est-ce que ça, je peux pas le livrer? Ouais, c'est...
Et est-ce que c'est plus facile d'avouer des choses sur soi, sur scène ou à ses proches?
Sur scène, évidemment, je pense. Ouais, ouais, parce qu'il y a un cadre où ça devient artistique, tu te planques un peu derrière ça, tu vois.
Et quand on a fait de l'impro depuis si jeune, qu'on était sur scène depuis que t'as 16 ans, 17 ans?
Ouais, 15 ans.
15 ans, et qu'on a l'expérience que tu as, est-ce qu'on développe un truc dans le cerveau par rapport aux gens qui sont drôles? Genre, ah non, mais est-ce que tu ris différemment? Est-ce que tu repères la blague? Est-ce que tu la vois arriver?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Évidemment, on performe de plus en plus, tu vois, je pense qu'on s'améliore, évidemment. C'est quelque chose qui se travaille.
Parce que souvent, les stand-upers, quand ils voient des choses marrantes, tu peux les mettre devant le film le plus drôle du monde, ils disent « Ah, ça c'est drôle ».
Exactement.
Ouais, trop marrant.
Ouais, ouais, ça c'est marrant, ça. Ouais, avec un flegme incroyable, bien sûr.
Comme si marrant, ça voulait plus dire rire, en fait.
Mais j'espère ne pas trop tomber là-dedans. Moi, j'aime bien les grands éclats et justement pas trop me prendre au sérieux.
Toujours garder l'amour de l'art, en fait.
Ouais, sans être là à décortiquer la blague. Ouais, alors là, on va faire une blague en trois temps. On va faire des digressions. Non, tu vois, je pense qu'il faut
garder... Il y en a qui sont encore comme ça.
Ouais, bien sûr. Après, chacun ses mécanismes, tu vois.
Est-ce que le public, il achète ça, en fait? Ouais, j'ai pas l'impression qu'en France, on ait vraiment cette culture-là.
Je sais pas, je crois que chacun a son créneau, tu vois, qu'il n'y en a pas forcément un qui en vaille plus qu'un autre. Après, moi, je suis plus cliente de trucs, ouais. Enfin, tu vois, j'aime bien l'amour, j'aime bien l'humour potache, tu vois, parce que je trouve que ça fait du bien de temps en temps de pas être avec quelqu'un qui va trop se prendre au sérieux, qui va nous lâcher un gros truc bien gras et ça va nous faire du bien, et en même temps derrière qui est une grosse réflexion, tu vois. C'est
Laurie Perret, c'est aime l'amour potache, mais aussi la musique avec une playlist exceptionnelle. Ouais. Et on enchaîne avec Shade, King of Sorrow. Yeah. DJ's playing the same song. Shade dans Verveine Underground sur Europe 1, choisi par Laurie Perret. C'est un morceau qui parle du dilemme d'une mère célibataire qui a du mal à concilier les besoins de ses enfants avec son rêve de devenir chanteuse.
Ouais.
Ça t'arrive de négocier avec ta fille pour vivre de ton art, pour faire ton art ?
Ah ben c'est je négocie avec ma conscience, surtout. Parce que la vie est pleine de sacrifices. Qu'est-ce qui vaut mieux à ce moment-là ? Est-ce que... c'est tout le dilemme de la maternité, tu vois. Aujourd'hui, évidemment, il y a cette opposition entre mes ambitions artistiques et mes obligations maternelles. Mais toute mère se pose ça, tu vois. Et je pense qu'au bout d'un moment, ce qui est important, en tout cas, c'est de... On ne peut pas être une bonne mère quand on est crevé et qu'on n'est pas épanoui. Mmh. Et on ne peut pas non plus être une bonne artiste... Quand on se sent pas à l'aise de avec son comportement, enfin tu vois, moi c'est
mais qui peut dire Laurie est une bonne mère, Laurie n'est pas une bonne mère à tes yeux?
À mes yeux, personne.
Ben ouais.
Non, évidemment, bien sûr. Et en même temps, il y a pas de bon chasseur et de mauvais chasseur. Non, bien sûr. On fait tous comme on peut, tu vois.
C'est exactement la conversation qu'on a avec Stromae qui disait, je pense qu'être un bon père, c'est faire comme on peut.
Ouais.
Faire ce qu'on peut, en tout cas.
Faire ce qu'on peut, ouais. Et si à un moment, il est important, justement... Enfin, moi, j'ai appris à déléguer. Il y a eu un moment où, justement, on veut tout faire. Enfin, tu vois, la société nous impose... et nous-mêmes, on s'impose une pression incroyable, tu vois. On veut toujours tout faire tout seul, au top, acheter des fruits bio, faire nos compotes nous-mêmes. Au bout d'un moment, il faut lâcher du lest, quoi.
Et être au top, faire ce qu'on peut, est-ce que ça réconcilie avec ses parents, une fois qu'on fait ça pour ses enfants ? Est-ce qu'on se dit ils ont fait ce qu'ils pouvaient ?
Ou pas, parce qu'on peut aussi trouver qu'à l'inverse, ils n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient. Mais évidemment que d'être parent, c'est une sorte de thérapie un peu accélérée, quoi. Il t'arrive des trucs qui sont assez, assez frappants. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai des amis. J'ai un groupe au WhatsApp d'amis d'Aaron qui sont formidables.
Le club des Daron.
Et c'est que des meufs qui font comme elles peuvent et elles ne font pas du tout de la même manière. Et c'est chambé, tu lances des discussions. Genre, un jour, j'ai flippé parce que ma fille, elle devait partir. L'école voulait qu'elle parte 2 jours dans un truc de classe verte en CP. Et moi, je voulais pas du tout parce que ça m'angoissait. Et j'ai lancé le sujet et c'était hyper intéressant. Tu vois, t'en as une qui me dit oh, vas-y, tant mieux, ça te fera 2 jours pour toi. L'autre qui lui dit mais t'as raison, on ne l'envoie pas. Enfin... et comme quoi, en vrai, il n'y a pas vraiment de vraies recettes. On fait tous comme on peut. Et il faut arrêter de tout le temps se culpabiliser, quoi. Je pense, c'est important.
Et est-ce que tu peux dédicacer les personnes de ce groupe à l'antenne d'Europe 1 ?
Bien sûr, je lance un gros big up à mes sœurs. Il y a Héloïse, il y a Sonia, il y a Odile, il y a Christine, il y a Elodie et il y a Sophie.
Et voilà les filles. Et on écoute Maës, Billet Vert.
Personne partage mon fait, je pars au solo dans l'Audi. Bien sans billet vert le jour où je t'y sors en bondi. Personne partage mon fait, je pars au solo dans l'Audi. Bien sans billet vert le jour où je t'y sors en bondi. 3h du mat', je suis toujours dehors. Contrôle de routine, vu ce qu'il est port. J'ai connu le vinaigre, il me faut du miel. Faut billet vert pour apaiser ma peine. J'avais 0 dans les poches.
On vient d'écouter Maës avec Billet Vert, choisi par Laurie Perret. Pourquoi avoir choisi ce morceau de Maës?
Ce morceau de Maës, parce qu'on baraude tout seul dans l'Audi, frérot.
C'est ça, Laurie Perret, c'est une caïra, ça fait.
Ah ouais, c'est vrai, tu vois. C'est, je crois que c'est Orelsan aussi qui a une phrase comme ça. Je ne vais pas te la retranscrire texto, mais je crois qu'il dit tout le monde te donne des conseils, mais au final, c'est ta tête sur l'album. Mm. Et qu'on soit artiste ou pas, c'est un peu toujours comme ça dans la vie. Tout le monde a des avis, tu vois, et au final, tu es tout seul, quoi. Moi, je crois vraiment que... je crois que on est seul, on meurt seul. Qu'est-ce que tu fais dans l'intervalle? Et il faut bien s'entourer, tu vois. Et ça ne veut pas dire renier son entourage. Au contraire, l'entourage a un grand rôle à jouer. Et c'est nous qui avons la chance de le sélectionner.
Et ce morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Billet vert. Est-ce que lorsqu'on gagne de l'argent, c'est l'entourage qui change ou soi?
Bien sûr, bien sûr, ça isole parce que ça plaît pas à tout le monde, parce que puis nous-mêmes, ça rend parano aussi. Tu te dis qui est là, pourquoi il est là. Donc ouais, ça isole.
Est-ce que t'as mis du temps, vu le milieu social d'où tu viens, à comprendre que cet argent était légitime pour le gagner?
Ouais, c'est pas tant l'argent, parce que l'argent, j'ai jamais été une faux folle et puis je gagne pas non plus. Je gagne bien ma vie, tu vois. Je gagne pas des milliers de cents, mais je gagne bien ma vie. J'ai toujours la même voiture éclatée. Je porte pas de marque ostentatoire. Maintenant, après, je vais dans un resto, je regarde pas le prix. Enfin, tu vois, je vois les choses comme ça, puis je fais plaisir à mon enfant. Non, c'est surtout j'ai eu mon petit syndrome de l'imposteur où je me suis dit est-ce que je suis vraiment là, je suis professionnelle.
Ouais.
Est-ce que je suis une artiste professionnelle, tu vois. Voilà.
Et comment tu l'as chassé ce complexe?
Je l'ai encore un petit peu et je crois surtout que j'arrête un peu de regarder comment on me perçoit, ce qui est important. Là, tu vois, justement, cette chanson Billet vert, elle a bercé mon été dernier. Et il y a des trucs qui se sont passés pour moi l'été dernier dans ma tête. Tu vois, on est sorti du confinement, on est retourné au boulot. Moi, j'ai changé, je me suis pris une petite maison qui m'a fait un bien fou. J'ai un petit jardin. Et je cultive justement cette... Enfin, c'est une solitude que je cultive et qui est cool, où je ne me prends pas la tête et j'arrête de regarder comment on me regarde. Au contraire, ce qui est important, c'est comment moi, je me vois.
Si tu vis comme on te voit, ta propre âme se perd.
Ouais, clairement, tu vois. Et justement, recentrer avec des gens vrais qui sont là depuis très longtemps, même si la porte est ouverte aussi à des gens super qui seraient nouveaux. Mais ce qui est important, c'est mon rapport avec moi-même. Et c'est plutôt cool.
Et c'est plutôt cool. Et Laurie Perret a choisi ce soir au micro d'Europe 1 l'un des plus grands morceaux de l'histoire du rap français. On écoute les X-Men avec Retour aux Pyramides. Le plus grand selon toi, évidemment.
J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. Nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des
Royal
siècles.
Royal comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre comme Rocky. Tant qu'ils sont gros, qui par mon style leur drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient. Bigre, merde, t'inquiète, j'ai le croquis, le plan pour les faire hacker. Allume l'herbe pour partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends? Je veux pas de quiproquo. Direction les Caraïbes, noix de coco. Eau tiède comme le sirocco. Fille exotique pour un mec classé X comme Rocco. La haine me motive, j'ai un train de plus, je conduis la loco. Motive, détache des wagons, né l'année de Gémon.
On vient d'écouter Retour aux Pyramides, choisi par Laurie Perret, morceau des X-Men, présent sur la bande originale du film Ma Cité va
Tout
craquer.
À fait.
Pourquoi ce morceau?
Je l'adore, écoute, je l'adore. Il a bercé ma jeunesse, je trouve qu'il a un flow incroyable. La prod est géniale. Enfin,
ouais, t'es spirit.
Ouais, puis je trouve qu'il vieillit pas du tout, quoi. Tu
pourrais en faire un couplet de tête comme ça?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Parce que c'est un morceau dans lequel il y a des vannes.
Ouais.
Mon rap choque comme une nonne qui fume le crack à Vincennes. Tatoué, sapé très sexe. Bafoué pour Vincennes. Un
Allez
défilé de 5 bands. Il y a des vannes dedans,
oui,
quand même.
Il y a des vannes chants, mais non, il est, je trouve qu'il est. Il est inclassable, quoi, tu vois. Je pense qu'il bougera jamais, ce morceau. Tu vois, on sera là à 60 piges, on se dit « Putain, mais X-Men !»
Est-ce que tu sais pourquoi dans ce morceau, à la fin, il dit « Bienvenue au KFC !»
Je n'ai jamais...
Rejoindre ta femme.
Je n'ai jamais compris pourquoi. Dis-moi pourquoi.
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas?
Non.
Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer? On veut avoir cette explication.
Écoute, si il des X-Men nous écoute, il viendra nous expliquer ça, en tout cas.
Ah, j'aimerais trop.
Parce qu'il est incroyable, ce morceau. Tu sais qu'il a été posé en 10 minutes.
Ok.
Ça a été fait comme ça, sur un espèce d'instinct en studio. Et ça reste un des plus grands morceaux du rap.
Ouais.
Dedans, il est dit « Je suis un king comme Martin Luther. Il faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs avant que tout explose.
Ouais. »
Est-ce que ça te parle?
Ouais, je trouve ça... Je trouve qu'en fait, il y a une rage de petit dans la bouche d'hommes. Tu sens que c'est des vrais hommes, déjà. Et qu'ils ont... Ils ont un truc, enfin tu vois, ils ont un truc très enfantin de on va tout niquer et avec des paroles infiniment réfléchies, tu vois.
Et puis je trouve que c'est aussi un morceau de notre génération. C'est-à-dire que on est à peu près des mêmes générations, ouais, sans dévoiler ouais. nos âges avancés. Mais ils nous représentaient dans le sens où ils montraient qu'on allait, qu'on savait qu'on irait quelque part.
Exactement. Clairement. Est-ce qu'ils ont nos âges, X-Men, ou est-ce que...
Ils sont un tout petit peu plus vieux.
Ils sont un tout petit peu plus vieux. Ouais, est-ce que c'est comme ça que je les perçois, tu vois? Pour moi, quand j'écoutais, c'était le son des Anciens, ouais. mais où nous, on se retrouvait dans leur discours.
Parce que
discours.
Retour aux pyramides, ça veut dire ça, c'est-à-dire retour à nos statuts de roi.
Exactement.
On n'est pas condamné à l'échec ou à être...
Nique les clones.
Exactement, nique les clones. J'aimerais qu'on écoute un extrait de Florence Foresti chez Click qui parle du fait de se remettre en question.
Ce qui est génial dans ce métier, c'est que si tu te remets pas en question comme au premier jour à chaque fois, ben t'es mort. Hein. En vrai, c'est super l'humour. Et, enfin, tous les arts d'ailleurs. Je pense que n'importe quel artiste, s'il se remet pas en question comme au premier jour, ben, il finit par se parodier lui-même ou par s'asseoir sur ses lauriers, puis ça donne des choses pas chouettes. Donc moi, j'essaie toujours d'appréhender les choses comme au premier jour.
Est-ce que c'est ton cas, Laurie Perret ? Est-ce qu'on a l'impression que là, t'es dans cette période-là en ce moment ?
Ouais, et je trouve que... elle dit que c'est tous les artistes, elle a raison, mais je trouve qu'il y a un truc qui est encore plus implacable avec l'humour. L'humour, à chaque fois que tu sors un truc, bah, t'es remis en jeu, quoi. Mmh. Est-ce que ça va être drôle ou est-ce que ça va... pas être drôle, quoi. Il y a un truc qui ment pas dans l'humour. Et donc, et je trouve que surtout, tu peux vite monter, parce que si c'est drôle, c'est implacable, c'est drôle. Et une fois que t'es là-haut, tu peux aussi vite redescendre. Donc, il y a un truc de... je trouve que c'est un sport de haut niveau, quoi.
Pourquoi est-ce qu'on est autant cruel avec les artistes qui font des bides?
Parce qu'on est des connards.
Oui, bon, il y a ça aussi, c'est vrai.
Ouais, mais parce que, ouais, il y a un truc qui est implacable, tu vois. Je trouve que, par exemple, dans la musique, si t'arrives à un statut où, voilà, t'as fait un hit, on va pouvoir te pardonner quelques chansons un peu moindres et tu vas revenir avec ton... Ouais, mais j'ai fait as, ouais. Tu vois. Que dans l'humour, un peu moins. C'est à chaque fois, tu remets ton titre en jeu. Et je trouve ça hyper dur, mais c'est le jeu, quoi.
Ouais, mais dans l'humour, des fois, on voit des humoristes se faire monter en l'air sur les réseaux.
Ouais.
Alors qu'ils voulaient juste faire des blagues. À la base, quand tu veux juste faire rigoler les gens, c'est que tu veux leur faire oublier leur journée, passer un bon moment.
Ça, j'ai l'impression que c'est un peu français. Ouais. Tu vois, parce que par exemple, t'as Dave Chappelle qui dit ce truc incroyable, qui dit, d'ailleurs, il s'est mangé une sauce avec toutes les vannes qu'il fait sur les personnes trans. Et il dit, je suis pas là pour avoir raison, en fait. Je suis là pour te divertir. Et en fait, ma vanne, c'est une vanne d'enfoiré. C'est pas bien ce que je dis, mais elle t'a fait marrer. Et moi, je suis juste là pour ça, en fait. Et donc, si tu veux, je pense que peut-être, eux, dans leur culture, ils sont moins à l'affût de « on va lui taper dessus ». Tu vois.
À propos de taper dessus et de comiques américains, tu vois où je veux en venir, Will Smith, Chris Rock, comment toi, t'as réagi ?
Eh ben écoute, j'étais choquée comme tout le monde. Et
Mais en tant que personne qui fait des blagues, en fait.
Moi, je trouve ça... En fait, si tu veux, je trouve que quand on fait des blagues, on a quand même la responsabilité d'éviter de faire du mal aux gens. Okay. Donc oui, il a fait du mal aux gens avec sa vanne. Mais de l'autre côté, Will Smith, il ne peut pas se lever, lui mettre une droite. Ça ne marche pas comme ça, la vie, quoi. Tu vois. Et je pense qu'il s'est fait lui-même sanctionner et qu'il va très mal, notre Will Smith. Mais non, évidemment, tu peux pas te lever et mettre une tarte à quelqu'un parce qu'il fait une mauvaise vanne qui t'a pas plu, quoi.
Et puis on touche pas à Chris Rock.
What the fuck.
Laurie, encore un morceau de ta playlist. On va bientôt se quitter, mais t'as quand même ramené beaucoup de musique. J'aimerais qu'on écoute Toni Braxton.
Ah ouais.
Long as I live.
You can know.
c'était Toni Braxton sur Europe 1, choisi par Laurie Perret. Laurie, tu sais, il y a une émission sur Europe 1 qui est l'émission d'Olivier Delacroix. C'est une émission de libre antenne.
D'accord.
Où il y a les gens qui appellent pour parler de leurs problèmes. Ouais. Et Olivier Delacroix, il a des dreadlocks, il les écoute, il conforte. Il est super, on l'embrasse très très fort.
On l'embrasse. Hein.
Ouais, mec, super. Et j'aimerais que tu aides une auditrice d'Olivier Delacroix. Elle s'appelle Sylviane, d'accord. Sylviane, elle a demandé à un artisan de refaire sa salle de bain. Oui. Et un jour, elle a reçu un étrange message.
Il continue à m'envoyer des SMS, alors il y en a un deuxième. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Je veux t'acheter et de la nourriture et des boissons. Je viendrai à toi. Parlons au septième étage. Mets le code ci-dessous, s'il te plaît. Madame, veuillez entrer le code de la porte. Tout ce que pour que je puisse monter vers vous au septième étage. Dis ce que tu veux, je suis tout seul, je parlerai de tout. Mais moi, je demande un devis. Non, mais c'est pour vous dire, je demande
c'est
un devis à un artisan et
vous tombez sur un fou furieux.
Mais non, mais attendez, Olivier, c'est pas le premier. Hein.
Voilà.
Mais qu'est-ce qui se passe?
À chaque fois que Sylviane rencontre quelqu'un, que ce soit un artisan ou quelqu'un d'autre, apparemment, d'accord, ça déclenche.
Ça lui déclenche des passions.
Ouais.
Mais qu'elle envoie le code, Sylviane. Il a des sacrés problèmes à régler, Olivier Delacroix.
Exactement, ouais. Bah, il fait ça tout le temps, tous les soirs. Sur...
Tu m'étonnes qu'il n'ait pas le temps de se démêler les cheveux. Mouloud, j'ai un cadeau pour toi.
Ah là là, c'est quoi?
Attends, je vais l'ouvrir, parce que là, on dirait une couche.
Alors là,
attends.
C'est le bruit de... Oui. Ça se mange
c'est
pas. Donc...
C'est le bruit du blister. Non, ça se mange pas. C'est... Regarde, c'est pour ta maman, c'est pour la fête des mères.
C'est des chaussettes où il y a écrit ta mère. Avec un cœur. Très bien, bah écoute... C'est quoi, je vais les mettre moi pour mes copains.
Ben vas-y,
pour regarde, impressionner mes copains. Chaussettes avec écrit ta mère.
Voilà.
Et c'est une marque qui s'appelle La Tôle.
Ouais, c'est ma marque.
Pourquoi La Tôle ?
La Tôle, écoute, j'ai créé un mouvement malgré moi. J'ai fait une story sur Instagram où je me suis filmée dépitée au parc et je faisais des allers-retours entre mon visage dépité et ma fille qui s'éclatait. J'ai mis hashtag La Tôle et j'ai reçu 6000 messages semblables.
D'ailleurs, voilà. Ta fille t'a inspiré un extrait qu'on appellera extrait enfant con. Et qu'on écoute.
Vous n'arrivez pas à dissimuler en société que votre enfant est con, et ce même quand il dort, j'ai pour vous quelques conseils. Parce que s'il est compliqué d'être le con de la soirée, être la maman du con peut s'avérer tout aussi difficile. Explication. Dans un premier temps, vous pouvez tout simplement feindre que vous ne le connaissez pas. Bon, après, si l'enfant manifeste des gestes familiers, vous pouvez également prétendre que vous l'avez adopté il y a peu.
C'est
bon.
Les petits conseils. Ouais. J'en ai fait un livre, Mouloud. Et il y a 45 petits conseils qui commencent tous par comment. Donc voilà, comme celui-là, comment faire pour que votre entourage ne s'aperçoive pas que votre enfant est con. Ou alors, comment créer un climat d'autorité sans frapper votre enfant. Là, par exemple, je préconise de déclencher une bagarre avec quelqu'un de plus faible.
Laurie, c'est quoi un con ou une conne?
Un con ou une conne
Commençons par une conne, priorité.
Une conne, y a plusieurs formes hein, de gens cons. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces gens-là parce qu'en plus, évidemment, la particularité du con, c'est qu'il ne s'aperçoit pas qu'il est con. Donc si ça se trouve, nous-mêmes, on est con.
Très,
tu vois
très, très. Moi, je me reconnais très... Vraiment, souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con? Je suis un champion hein, en conneries. Vraiment, vraiment, vraiment très fort.
Et je pense qu'on est tous le con de quelqu'un, quelque part.
Voilà. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti con?
Écoute, c'est une sensation qui m'arrive assez, assez fréquemment.
Ouais.
Ben, ça m'est arrivé ce matin, par exemple. Ce matin, j'ai eu un texto que j'ai lu en ouvrant les yeux, où il y avait marqué qu'il y avait une coupure d'eau dans mon quartier. Et on avait rendez-vous ensemble, Mouloud. Du coup, ben, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je prends tout mon temps, et puis je vais dans ma douche.
Et là ?
Il n'y a pas d'eau. Et je dis, putain, oui, finalement.
Mais je rassure les auditeurs et les auditrices, tu sens très très bon.
Oui, je suis partie me doucher chez quelqu'un.
Super odeur. Laurie Perret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu es actuellement en tournée avec le spectacle alimentaire En attendant la pension.
C'est
le titre. Ça s'appelle Spectacle alimentaire En attendant la pension. Le 13 mai à Melun, le 20 à Biarritz et le 19 juin, grosse date à la Cigale de Paris. Verveine Underground revient dans un instant. On écoutera notamment Justice. Et puis parce que j'en ai envie, Stevie Wonder. Allez, à A tout de suite sur Europe 1.
Verveine. Underground.